Deutsche Welle. Droits et libertés.
En janvier 2011, un soulèvement populaire renverse Zine El Abidine Ben Ali, qui était au pouvoir en Tunisie depuis 1987. Elle a été qualifiée de révolution de jasmin et a été le précurseur du printemps arabe, qui a bouleversé la donne politique et sociale dans de nombreux pays de la région. Alors, pour savoir où en est la Tunisie de 2017, 6 ans plus tard, où elle en est dans sa réflexion sur la démocratie et sur son avenir, nous recevons cette semaine Leïla Dahli, une historienne tunisienne spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
La Tunisie va plutôt mieux qu'un certain nombre de ses voisins. C'est un temps un petit peu particulier qui mêle une forme d'impatience et aussi, de prise en charge d'un temps d'après la dictature. On essaie de vivre dans une démocratie et de faire en sorte que cette démocratie ressemble un petit peu aux espoirs qui avaient été portés par la révolution.
Alors, il y a eu quand même une nouvelle constitution décrite, ce qui est un pas important. Cela dit, il y a encore beaucoup de problèmes pour ce qui est de la réconciliation nationale et de la façon dont on doit poursuivre ou pas les anciens responsables du régime Ben Ali. Là, une loi vient d'être promulguée par le président Essebsi qui amnistie les fonctionnaires qui étaient impliqués dans la corruption sous la dictature.
Cette loi de réconciliation nationale avait provoqué et provoque toujours énormément de critiques et de contestations qui sont portées par des associations, des partis de syndicats et des personnalités, en particulier un mouvement qui s'est auto-appelé « Nous ne pardonnerons pas », Manège une Samchine, ça veut dire on n'est pas prêt à accorder le pardon. Ce mouvement rassemble des individus un peu disparates, mais n'a pas réussi à bloquer la promulgation et la signature de la loi. Donc il y a une forme d'impuissance aussi face à des politiques qui ont été évidemment élues de manière tout à fait régulière, mais à qui les gens ont le sentiment d'avoir signé un chèque en blanc.
Et puis aussi, à la fois ces scandales récurrents autour d'un des fils du président Essebsi qui aurait des visées politiques et qu'il faut réfléchir à, oui. à la volonté peut-être du président qui est assez âgé de passer la main dans la famille.
À son fils. Quand Béji Khaled Essebsi a été élu, même quand il s'est présenté, il a joué un répertoire qui était un répertoire non pas pro-révolutionnaire, mais un répertoire de réconciliation avec l'avant Ben Ali, c'est-à-dire avec la période bourguibienne.
Bourguiba, oui.
Qui lui-même est un ancien ministre de Bourguiba, etc. Et de la génération, de cette génération de l'indépendance. Donc il a joué ce répertoire et il a réussi autour de cette sorte de nostalgie. D'un temps dont on se souvient que c'était pas terrible, mais que quand même les gens pour lesquels les gens ont une certaine nostalgie, il a joué sur ce répertoire pour rassembler autour de lui des forces qui allaient des plus libéraux, plus à gauche. Donc il y a vraiment un éventail centriste assez large autour de lui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement Béji Khaled Essebsi a hérité des pratiques du pouvoir qui étaient celles aussi de Bourguiba bien avant Ben Ali. Donc une forme d'entre-soi,
de népotisme.
Et de népotisme, évidemment, qui s'exerce de manière complètement naturelle. Il n'y a pas tellement d'autres manières pour eux de faire de la politique.
Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu désespérant, notamment pour des jeunes qui étaient les porte-voix ou les porte-flambeaux de la Révolution, de constater que maintenant, non seulement ils ont un vieux président issu de l'ère Bourguiba, et qu'en plus, il fait alliance avec les islamistes et Ennahda. Et finalement, il y a une sorte d'échec à inventer une troisième voie.
Ah oui, c'est absolument désespérant, mais c'est désillusionnant.
Dans les mois qui ont suivi la révolution, il y avait des grèves dans de nombreux secteurs de la société qui étaient quasi quotidiennes. Il y avait eu avant la révolution dans le bassin de Gafsa les mineurs qui avaient lancé des grands mouvements sociaux qui ont été réprimés dans le sang, qui avaient fait pas mal de bruit aussi à l'étranger. Là, on n'entend plus du tout parler des mouvements sociaux du centre de la Tunisie, de Sidi Bouzid. Comment ça se passe dans l'arrière-pays? Est-ce que les gens ont même jusqu'à renoncer à protester ou est-ce que leur situation s'est réellement améliorée?
on n'en entend plus parler, mais néanmoins, il continue à avoir des mouvements sociaux assez forts. Ça n'est pas limité au bassin minier, où disons que la contestation se poursuit hein, par phase. Il y a aussi eu pas mal de protestations dans le secteur public. Hein. Les enseignants ont beaucoup manifesté ces dernières années, par exemple. Des manifestations paysannes dans certaines régions, en particulier dans les oasis, où des coopératives ont voulu se ressaisir des cultures de la date, par exemple. Il y a des mobilisations, disons, multiformes. Il y a aussi des mobilisations de sociétés civiles, hein, de manière un peu plus petite. Hein. On peut penser, par exemple, aux revendications des droits LGBT, qui sont quand même aujourd'hui assez représentées, aussi parce que la police systématiquement traque les personnes homosexuelles jeunes, en particulier en Tunisie. Malheureusement, je pense d'abord, elles n'ont pas d'écho forcément à l'international, mais aussi elles n'ont pas tellement de relais à l'intérieur de la société. Les syndicats sont extrêmement divisés.
Et qu'en est-il des droits des femmes? La Constitution de 2014 garantit une égalité sur le papier. Cela dit, il reste encore des grandes inégalités sociales. Je crois que les femmes ne représentent que 28% de la population active et sont quasiment la majorité des chômeurs.
Oui, en termes de droits sociaux et d'égalité au travail, etc., on est très très loin du compte en Tunisie. Que le président, disons, joue toute sa carte bourguibienne jusqu'au bout. Il est à la fois, il a ses pratiques autoritaires à l'ancienne, etc., et il assume aussi cet héritage très patriarcal, hein, d'être celui qui continue à libérer les femmes. Donc, de geste symbolique en geste symbolique, là, il se construit une image, hein, disons, de défenseur des femmes. C'est toujours un peu, en Tunisie, une sorte de piège, hein, de la question des femmes. Ça a toujours été un peu la vitrine, hein, officielle du régime, y compris sous Ben Ali. Il y a parfois des réformes, hein, sur un certain nombre de dossiers. Mais c'est comme si on tardait à avoir venir tout simplement des analyses et des stratégies. Qu'est-ce qui se passe sur ce terrain-là, par exemple? On va avoir des réformes ici ou là sur telle ou telle question de l'égalité homme-femme, etc., de la liberté. Mais on n'aura pas de discours général, non seulement établissant un diagnostic, mais encore établissant une stratégie.
Mais est-ce que ça ne rejoint pas ce que vous disiez tout à l'heure sur peut-être le manque d'organisation aussi, finalement, ou d'unité de la société civile? Si la pression était réellement forte sur les partis qui craignaient, ne serait-ce que pour leur réélection, est-ce qu'il n'y aurait pas plus tendance à réfléchir plus globalement et essayer d'apporter des réponses à ces problèmes de droits? Enfin, les droits sont rarement accordés, oui, comme ça, sont souvent des acquis arrachés de haute lutte.
Bien sûr, c'est vrai. Je pense que la société civile et de manière générale un peu trop silencieuse. En même temps, il y a aussi toute une partie de la société civile qui s'est engonflée dans le combat politique très très vite, je pense ici aux syndicats, qui pour partie s'est très vite engonflée dans les questions de pouvoir, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'en effet, sans ces arbitrages-là, au moment des débats sur la Constitution, on n'aurait peut-être pas eu la Constitution qu'on a eue et dans la paix qu'on a fini par conserver. Disons que c'était bien. Mais qu'il y a un moment où, en effet, ces acteurs-là, on aimerait qu'ils reviennent au lieu où ils doivent exercer les rapports de force et les expertises qu'ils ont.
Et j'ai une toute dernière question à nouveau sur la Tunisie hors Tunis. J'étais allée notamment il y a quelques années dans le sud, qui était frappé de plein fouet aussi par la crise économique, où la plupart des jeunes étaient au chômage. Et le réflexe de la population, c'était majoritairement plutôt de se tourner vers un certain conservatisme religieux, notamment, plutôt que vers des mouvements de protestation qu'on pourrait qualifier entre guillemets de progressistes, qui iraient vers une revendication d'égalité avec Tunis ou entre hommes et femmes.
Là, je plaide vraiment pour qu'on travaille de manière un peu plus historienne sur ces questions-là. Il y a le chômage, il y a le fait que pour avoir une vie normale, il faut, une vie normale, pouvoir se marier, etc., être connu par sa famille,
il faut
avoir du travail, pouvoir avoir une maison, etc. Donc ça, on est dans un système de contraintes dans lesquelles une partie de la jeunesse est piégée et a du mal à trouver ses marques. Il y avait plusieurs solutions. Après, là, vous parliez de valeurs, vous. Moi, je veux parler plutôt aussi de déboucher, c'est-à-dire comment sortir de ces situations-là. Pendant des années, après la colonisation et dans l'époque postcoloniale, un des moyens de sortir de là, c'était d'équilibrer l'argent venu de l'immigration et l'argent au pays, quoi. Hein, une partie restait, une partie partait, et ces circulations, elles pouvaient se faire de manière relativement fluide. Je pense qu'une partie des blocages hein, qui sont aujourd'hui dans les régions rurales en Tunisie viennent de la rigidification des politiques migratoires et de sa dureté qui affecte ces gens-là. Il y a une continuité évidente entre le fait de réclamer sa liberté en Tunisie et de la réclamer de manière plus générale. Là, ma critique, elle s'adresse non pas du coup au gouvernement tunisien, mais bien au gouvernement européen qui n'ont jamais compris l'ampleur de cette... On parle de frustration, et parfois on va même jusqu'à parler de frustration sexuelle, ou je sais pas quoi, ou personnelle, etc. Et la plus grande des frustrations, si on la compare avec une jeunesse du Nord, ou une jeunesse des premiers mondes, c'est de ne pas pouvoir bouger. Mais ce que je veux dire, c'est que les régimes qui ont été abattus au sud de la Méditerranée, c'était aussi des régimes gendarmes de l'Europe.
Bien sûr, le grand exemple, c'est la Libye de Kadhafi, oui.
Ben bien sûr. C'était aussi cette tâche qui leur était confiée, qui aujourd'hui a volé en éclat. Mais voilà, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut redonner un tout petit peu de respiration hein, à cette circulation méditerranéenne ?
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Leïla Dahli. Écrivez-nous à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
راجع يا بلادي عبر الجبال وانت تلاقى ندادي على الساحة رجال وانت تلاقى